Ici Jean-Dominique Leduc
et Marc Tessier. Bienvenue à Entre deux cases, édition Angoulême 2025.
Avec cette série de balados spéciales, nous vous proposons, Marc et moi, des entrevues avec différentes participantes et différents participants de la délégation québécoise, réalisées sur place, comme si vous y étiez.
Julien Paré-Sorel, salut.
Salut.
Alors, on prend le café au soleil sur une terrasse à Angoulême.
Oui, monsieur.
Au pied de la Charente.
Exact. On n'est pas loin de la cité de la bande dessinée.
Ouais. Alors, on est pratiquement, j'ai l'impression d'être dans un récit de science-fiction tellement le temps est clément pour Angoulême. Donc, profitons-en.
Ouais, on est très bien.
Alors, Julien Paré-Sorel, auteur de la populaire série Aventurosaur, série que tu as débutée en 2018 et qui connaît, ma foi, un succès fulgurant.
Monstre.
Ah oui, un succès monstre.
Un strip préhistorique. Ouais. Je suis vraiment content puis chanceux. Il y a une belle équipe aussi derrière le projet chez Presse Aventure. J'espérais que les gens embarquent dans mon univers, dans mon récit. Puis ben, ça se passe vraiment bien. Le projet a commencé en 2015, donc avec le Inktober, la création du protagoniste Rex, les premiers tests d'ancrage. Puis après ça, il y a eu l'année de développement, de création d'univers. Et en 2017, la production du premier album qui est sorti en 2018, Le Réveil de Rex.
Et là, t'en es à ton sixième tome qui est paru il y a...
Il est sorti en novembre au Québec-Canada, puis il vient d'arriver en France-Suisse-Belgique à la mi-janvier. Là. Donc, il est tout frais.
Et donc, tu es à Angoulême parce que tu fais partie non seulement d'une exposition, mais également, tu es en séance de dédicace.
Oui.
Alors, comment le lectorat accueille ta série?
J'étais à Angoulême il y a 2 ans, pour la première fois de ma vie. C'était un rêve, moi, que je cultivais depuis très longtemps.
D'accord.
J'avais vraiment hâte d'aller à Angoulême. Étant le plus grand festival de la bande dessinée au monde. Là. C'est le Cannes de la BD. Et il y a 2 ans, le Québec était à l'honneur un peu avec l'Espace Québec, l'inauguration, tout ça. Et moi, j'avais...
L'année passée.
Mais il y a 2 ans aussi. Oui.
Ouais, l'an passé, c'était le Canada. Puis il y a 2 ans, c'était vraiment plus le Québec. Donc, j'étais vraiment content de faire partie de cette délégation-là. C'était vraiment un honneur. Et j'avais pas eu l'occasion depuis 2018, donc depuis le début de la série, de venir sur le territoire européen, parce que ma série est distribuée, c'est ça, France, Belgique, Suisse.
Ouais.
J'avais pas eu l'occasion de venir la défendre sur le terrain. Bon, il y a eu la pandémie qui a rendu les voyages un peu plus compliqués. Donc, c'était la première fois que j'avais l'occasion de rencontrer le lectorat européen, français particulièrement. Et je m'attendais à absolument rien, étant donné que c'était la première fois. J'avais des familles, des jeunes qui m'attendaient. J'avais des très belles séances de dédicaces. J'avais des familles qui étaient à jour dans la série. À l'époque, il y avait le tome 4 qui venait de paraître.
Ouais.
Et j'ai même eu un jeune qui était déguisé en Rex, donc du cosplay. Et ça m'a...
T'as eu un cosplay à Angoulême?
Ah ouais, j'en revenais pas. Wow. C'était comme incroyable. C'était surréaliste. C'était tellement touchant. Donc déjà, j'étais vraiment impressionné par l'écho, la réception. Là. C'était très chaleureux.
C'est parce qu'il faut le dire, là, faire de la bande dessinée qui s'adresse à un lectorat jeunesse, quand on arrive sur le marché européen avec le groupe Média Participation, là, type, par exemple Dupuis, là tu te bats. En fait, tu te bats. Tu essaies de te frayer un chemin, mais tu tentes de te frayer un chemin à travers ces séries à succès qui cartonnent, qui vendent en fou. Et donc, c'est pas banal là, que lors de ta première visite à Angoulême, déjà, t'es allé à la rencontre de ton public. Alors là,
j'étais au rendez-vous. Là. Ouais,
donc c'est... là, cette année, 2025, de la délégation québécoise, c'est ton deuxième passage à Angoulême.
Exact.
Et là, comment ça se passe à ce jour?
Ça va super bien. Cette année, je fais de la dédicace au pavillon de l'UNESCO, donc à l'Espace Québec encore, au Stand Canada dans Nouveau Monde. Et la nouveauté, c'est à la Cité de la bande dessinée, donc le genre de musée là, de la bande dessinée, au quartier jeunesse, que j'avais jamais visité. Et là, il y a une exposition spéciale sur des séries de bande dessinée québécoises jeunesse. Donc, j'ai l'honneur d'avoir des pages de ma série. Là, il y a environ 8 pages qui sont exposées avec un Rex grand format, tout ça. Donc, les gens peuvent découvrir la série via cette expo-là. et j'ai aussi des dédicaces au quartier jeunesse. Mais il faut le dire que moi, mon école, c'est la BD franco-belge. Lorsque j'étais enfant, Spirou, Astérix, etc., j'ai commencé à lire avec ces séries-là. Donc, ça va dans mon ADN artistique. Après ça, j'ai découvert le comic book états-unien, le manga japonais, tout ça. Mais les origines, c'est vraiment ça. Donc, dans l'univers d'Aventureuse, il y a quand même ce que j'appelle une vibe gauloise. Il y a même des petits clins d'œil un peu à certains classiques franco-belges. Et en plus, le livre, c'est un petit franco-belge cartonné. Donc,
48cc.
Ben, j'ai 50 pages de BD, plus beaucoup de bonus. Là, il y a 64 pages.
Oui, pour le multiple de 16. Voilà.
Ouais, c'est ça, exact, pour l'impression. Bref, tout ça pour dire que je pense que j'arrive en Europe avec une proposition artistique qui leur est pas étranger, tu sais, c'est du connu, il y a quelque chose de familier, mais en même temps, j'ose espérer, il y a quelque chose de frais, d'original avec tout l'aspect préhistorique, parce que des récits de fantasy médiévale, fantastique, animalier, il y a plein de belles séries, il y en a plusieurs, mais préhistorique, j'ai l'impression que c'est une des seules ou la seule avec cet angle-là. Ouais, fantastico-jurassique, bref.
Et il faut le dire, quand je parlais du groupe Média Participation tantôt...
C'est le diffuseur.
C'est le diffuseur ici en Europe.
Exact.
Pour toi, donc, au Québec, Presse Aventure se passe maintenant de présentation, là, je veux dire...
Oui, avec l'agent Jean, avec l'agent Jean. Maddox, ouais.
Et donc, c'est une équipe très, très dynamique.
Ouais.
Qui développe un catalogue jeunesse avec une signature qui m'apparaît très, très claire.
Ouais.
Et là, ici, d'être diffusé via le groupe de Média Participation en Europe, t'es vraiment dans les ligues majeures, là.
Ben écoute, j'ai l'impression que tu comprends mieux que moi ce que ça représente au niveau de l'aspect distribution, là.
Oui.
Ce qui arrive, c'est qu'au Québec, le marché est vraiment... il y a encore beaucoup de potentiel. Tant au niveau des structures éditoriales, à mon humble avis, que surtout au niveau du lectorat. Je pense que le lectorat, peut grandir, peut se multiplier encore beaucoup. Énormément de potentiel au Québec. Ben, et je parle de toutes les générations.
Tu t'es rendu à combien de tirages? Parce que quand je t'entends, je pense... aux Tintin, aux Astérix qui vendent 50 000, 60 000, 70 000 copies au Québec. Fait que j'imagine que le potentiel est là d'atteindre ces gens-là qui aiment ces types de bandes dessinées-là pour enfants, pour toute la famille.
Tu parles au Québec, là?
Oui.
On parle de chiffres, là?
Oui.
OK. Bien, le premier album, il y a eu un papier, là, donc c'est une information publique. Le tome 1 a vendu au Québec plus de 25 000 exemplaires. Bon, puis, donc ça, c'est une fierté, là, je suis vraiment content. Mais comme tu as si bien dit, il y a une équipe dynamique, mais aussi très humaine, soucieuse de valoriser le travail artistique des différents artistes. Là.
Oui, puis on sent aussi que c'est une équipe qui prend soin de ses artistes aussi.
Oui, ben oui, l'idée, c'est de créer un environnement, un contexte de création qui est favorable. Puis juste pour rebondir au fait du marché français, ici, c'est que contrairement au Québec, c'est là que je m'en allais, c'est ici, il y a le phénomène de sursaturation du marché. Multiplication, combien? 50 000 nouveautés par année? Une affaire comme
non,
ça?
Non, 50 000, non. Mais
500?
On est à 6 000, 7 000 nouveautés ici par année, okay, là, ici en Europe francophone.
Ouais.
Mais là, ça monte, c'est exponentiel à cause de la traduction des mangas.
Ouais.
On met aussi les rééditions patrimoniales, les intégrales, tout ça. Mais oui, on nage dans plusieurs milliers.
C'est ça, de nouveautés.
De nouveautés.
Ouais. Ça pour dire qu'avec ma série, j'arrive, j'ai l'impression d'être plus une goutte dans l'océan. Ouais. Donc, c'est plus difficile de trouver, de se tailler une place, de se faire sa place en librairie. Mais avec l'écho que j'ai durant mes séances de dédicace, ça m'encourage parce que je vois qu'il y a des familles qui ont embarqué, qui ont lu, qui sont à jour, qui viennent chercher la nouveauté, le sixième. Il y en a encore beaucoup qui découvrent avec le premier album. Donc, c'est encourageant. Mais moi, je pense que c'est toujours une question de chaque lecteur, lectrice compte. C'est vraiment la qualité de la rencontre puis de l'expérience de lecture qui est importante, là.
Bien, tantôt, on parlait de statistiques et de chiffres. Alors, j'en ai des chiffres.
OK. Vas-y, fort.
Alors, pendant que certains se régalent en consultant l'annuel de l'automobile, ce qui est vraiment pas mon cas.
Toi, c'est plus Gaspard.
Voilà. Moi, je suis... moi, c'est le bilan Gaspard.
Ben oui.
Voilà. Et je suis allé consulter l'édition 2022. Et dans le top des 30 albums les plus vendus au Québec, en 2022, le quatrième album d'Aventurosaur,
Les Portes de Jurassium.
Ouais, il se retrouve en 27e position des meilleures ventes. Et okay. là, moi, je suis très, très curieux parce que le rapport annuel qui va paraître dans quelques jours ou quelques semaines pour mm-hmm. l'année précédente, je suis très, très curieux, encore une fois, de voir les chiffres parce que Presse Aventure a une belle présence. Et ce qui me...
En événement, tu parles?
Non, en vente, là, au niveau des ouais. dans les albums vendus.
Et ben, moi, il y a une belle offre.
Oui, et là où je trouve du réconfort, c'est qu'il y a de plus en plus de productions québécoises qui battent Garfield en traduction française.
Ouais, je comprends.
Donc,
ben, c'est l'idée de notre culture. C'est notre culture, ouais. c'est nos artistes, nos univers. J'en ai déjà parlé. Moi, j'ai grandi, c'est ça, avec des héros, surtout qui venaient de l'Europe. Puis les artistes, exemple, Tom et Jean-Ry, j'ai jamais pu les rencontrer. Ouais. Je sais pas combien de fois ils sont venus au Québec, mais j'ai jamais eu l'occasion, ouais. tu sais. Alors que depuis 10 ans, surtout les 7 dernières années, la nouvelle génération, les jeunes qui présentement sont primaires, secondaires, le lien, les possibilités de rencontre avec les artistes de bande dessinée via les salons du livre, les festivals de BD, c'est concret, là. Il y a une facilitation, il y a plein d'occasions de rencontrer. Donc ça, je pense que ça résonne avec ce lectorat-là, parce que eux, non seulement ils peuvent lire les livres, les univers, les BD, mais ils peuvent rencontrer les créateurs, les créatrices qui sont derrière ces univers-là, ces histoires-là. Donc ça, je pense que ça ajoute une force à l'expérience. Parce que tu vois l'humain derrière, tu vois le travail, tu peux parler avec la personne qui parle de son processus, qui dit « Ah, ça prend un an par album, par exemple.
Oui. » Et c'est que la bande dessinée jeunesse, lorsqu'elle est bien faite, non seulement elle s'adresse à tout le monde, mais ouais. je trouve qu'elle est fédératrice aussi. Parce que un album jeunesse, quand il entre dans une famille, et là...
Ouais, ouais.
J'ai deux grandes filles maintenant ouais, qui ouais. ont l'âge d'avoir quitté le nid familial, ouais. mais moi à l'époque.
Les Nombris, par exemple.
Ah, ben oui, ouais. ah, ben oui. Non, ouais, les Nombris. Ouais. D'ailleurs, moi, je m'amuse toujours à raconter pour l'anecdote que quand j'ai commencé à faire ma couverture, quand j'ai commencé à travailler comme médiateur dans les médias, quand je recevais un nouvel album des Nombris en service de presse pour que je puisse le lire puis préparer ouais, ouais. mon entrevue en amont. Fallait que je le cache.
C'est ça, tes filles sautaient dessus.
Et mon
c'est
épouse bon aussi, là. Fallait que je cache l'album. J'étais cuit, ouais, sinon ouais. j'étais le dernier à le lire. Là.
Ben moi, je m'en suis jamais caché. C'est une histoire grand public. C'est pour tous et toutes. En anglais, ils disent « for all ages ». C'est vraiment un conte fantastique pour toutes okay. les générations.
Okay. Oui. OK, moi, j'ai juste une petite intervention parce que j'en ai parlé avec Julien avant. Mm. Parce que moi puis Julien... Pour les auditeurs, on se connaît depuis longtemps parce qu'il a été un de mes premiers étudiants, puis on a fait synthèse ensemble.
Oui,
fait que
à l'UQO.
C'est ça. Fait que Julien, il explorait beaucoup la narration, les suites narratives sans parole. Il y avait de l'expérimentation dans son travail de synthèse. Puis, je dirais aussi, dans son premier album, chez Front Froid. Fait que ouais. ma question pour Julien, c'est comment tu intègres ta recherche graphique narrative dans une BD pour tout public?
C'est une excellente question. Mais c'est ça, moi, je viens de la BD, comme tu as dit, j'ai fait beaucoup de BD muettes, beaucoup de BD comme expérimentales, entre guillemets. Je voulais explorer le médium, tout ça. Je viens de la BD un peu alternative, BD de genre, underground à mes débuts. Et ça, mes racines sont encore présentes. Et donc, moi, mon objectif que j'avais un peu l'impression de cacher dans les premières années, mais que maintenant, je le cache plus du tout, c'est de... Mon but, c'est de faire une histoire grand public, très, très attrayante, avec un emballage très coloré et attirant. Mais le contenu, c'est un récit d'auteur très personnel, avec des enjeux qui m'intéressent personnellement, moi. Puis la création d'une mythologie que j'aime créer, développer, avec toutes sortes de personnages, d'époques, de divinités. Donc, c'est
vrai, parce que tu avais un aspect très symbolique, justement, dans ton travail.
Oui, oui. Merci de le mentionner. Oui, le symbolisme, moi, c'est au cœur de mon approche, de mon processus.
Mais c'est très présent dans Aventurosa. Mm-hmm. Et je sens tout le soin que tu apportes à ton découpage.
Oui. Ben c'est l'essence du médium.
Oui, ben oui, mais on va se le dire. Il y a des séries, puis peu importe à qui elles s'adressent, les séries, quand on tombe dans une logique de série, on tombe souvent dans une logique commerciale mm-hmm. et on pousse la machine et on essaie de rapprocher les sorties et on accélère.
Ouais.
Et souvent...
Le marché est ainsi fait.
Oui, le marché est fait comme mm-hmm. ça. Donc, quand on lit des séries comme ça, on sent pas forcément qu'il y a une réflexion derrière, ou il y a un désir, ou il y a... Oui, vraiment une réflexion sur le médium. Alors que dans Aventurosaur, moi, quand je lis une histoire, je sens le souci, le travail, la recherche, et de faire en sorte que, tout en racontant une aventure palpitante, il y a aussi un travail de fond sur le médium que tu as choisi.
Oui, c'est parce que je suis un amoureux du langage BD. Tu sais. Je suis un passionné de sa sémiotique, dans le fond. Puis après ça, c'est le but, c'est juste de raconter la meilleure histoire possible, puis l'histoire que j'ai envie de lire, que j'ai toujours voulu lire. Puis je me permets de rebondir sur un truc qu'on a parlé tantôt.
Vas-y. Je peux t'interrompre parce que ce qui est intéressant, parce que je demande souvent à Julien, c'est savoir où ce qu'on s'en va au final. Mm. Parce que il y en a qui improvisent à mesure, il y en a qui sont bons, mais la plupart, ils échouent, puis au final, c'est décevant. Mais Julien, il y a un plan de match, puis il sait où ce qui va s'en aller. Fait que ça lui permet de construire et apporter plus de richesse dans son récit à mesure qu'il avance vers la finalité.
Ben merci d'avoir cette impression-là. Pour être honnête, c'est un mélange. J'essaie d'avoir une organisation ultra-orchestrée. L'année qui a servi à créer cet univers-là a mis toutes les bases, toutes les scènes clés, toute la ligne du temps, la psychologie, la philosophie du récit, les valeurs, tout l'aspect visuel. Mais oui, j'ai déjà la finale, je sais comment ça va se terminer. J'ai déjà les scènes clés. Donc ça, j'ai besoin d'être ultra organisé. Dès que je mets quelque chose en scénario et en page, dès que je mets quelque chose en scène, en dessin, je dois toujours faire une double validation. Est-ce que ça fonctionne avec les albums précédents? Est-ce que ça fonctionne avec ce qui s'en vient?
Oui, parce que c'est dans un tout.
Oui, c'est ça, c'est un grand univers. Ouais. Puis après ça, je me laisse la place à improviser certains éléments. Les péripéties entre les scènes clés, ça, je m'amuse beaucoup, puis je veux me laisser de la place à la liberté. Puis même, je suis rendu à un stade où je suis à l'écoute des personnages qui évoluent au fil des albums, qui maturent, qui grandissent, qui évoluent personnellement.
Ça garde ton récit vivant.
Ben oui, c'est organique. Ouais, parce que des fois, j'ai l'impression d'être finalement devenu un peu un témoin de leur histoire, de leur épopée. Et il y a eu, dans le tome 4-5, un événement qui n'était pas prévu du tout au scénario à la base. Puis il y a un personnage qui est venu jouer dans mes plans. La sorcière a vu ensorceler une des jeunes, Patchy, qui est devenue une vilaine. Ça, c'était pas du tout prévu, mais j'écoutais les personnages, puis je sentais que tout convergeait dans cette direction-là. Puis je me suis dit, je vais me lancer ce défi-là. Vous voulez aller là? On va y aller. Je vais aller voir qu'est-ce que ça donne. Puis des contraintes naissent plus de créativité encore. Donc j'aime ça me lancer des défis en plus, tu sais. Donc c'est ça, un mélange de... être super organisé pour bien orchestrer ça, que ça soit ultra cohérent. Mais en même temps, cette ouverture-là, cette écoute-là, la liberté de l'improvisation pour que ça reste vivant et organique, comme tu as dit. Là.
Oui, parce qu'il n'y a rien comme l'encadrement pour pouvoir ensuite explorer et accueillir l'imprévu, justement.
Ouais.
Alors là, bon, deuxième visite à Angoulême. Ouais. Est-ce que la prochaine étape, ce ne serait pas une tournée en France, en Belgique? Donc, une tournée de librairie, des écoles. Est-ce que c'est quelque chose que tu vises? Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais?
Tout à fait. C'est certain que c'est quelque chose que j'adorerais. Après ça, c'est de jongler avec la production des albums, les événements au Québec, la vie familiale, tout ça. Ouais. Donc, éventuellement, à Paris puis dans les alentours, une tournée librairie, j'aimerais beaucoup. Belgique, j'adorerais y retourner. En Suisse aussi. Donc, dans les prochaines années, j'imagine qu'il va y avoir des possibilités, mais il y a certainement un intérêt de ma part. Je pense que ça serait vraiment trippant. C'est de trouver le bon contexte, le bon moment. Ouais.
Ben, je te le souhaite. Je te souhaite d'aller à la rencontre de ton public.
Très gentil, j'apprécie.
Et félicitations pour tout le travail accompli. Tu sais tout le bien que je pense de ta série.
J'apprécie.
Personnellement. Mais aussi avec ma casquette de médiateur, je trouve que tu fais un excellent boulot. Comme quoi, évidemment, on n'a pas besoin de le dire, mais je vais quand même prendre la liberté de le faire. Comme quoi, on peut mettre tout son cœur dans une série qui va à la rencontre du public et qui s'inscrit dans un succès commercial.
Oui, c'est
l'un
ça.
L'un peut exister avec l'autre.
Exactement.
Ben, c'est pas des antagonistes.
Non, exactement.
Son cœur et sa créativité, son ingéniosité.
Oui, voilà.
toute ouais. sa maîtrise de l'art que je lui enseigne.
Bon.
J'ai retenu que le positif.
Alors, prof Tessier, Julien Paris-Sorel,
merci
beaucoup. Et bonne fin de festival.
Bonne fin de festival, merci.
Indicatif sonore, Xavier Pinchot. Pour suivre notre couverture du Festival Angoulême édition 2025, rendez-vous au jeandominiqueleduc.ca/tribune/catégorie/angoulême-2025. Certes, c'est long, mais ça vaut le coup.